Bonjour à tous. Comment faire de la nature un projet politique? C'est la question du jour dans l'actualité des idées. On en parlera avec notre invitée Valérie Chansigaud. Elle pointe notre désintérêt pour le sujet. Elle pointe surtout notre manque de sensibilité culturelle pour la question écologiste. C'est le sujet de son nouvel essai « Les Français et la nature ». Pourquoi si peu d'amour? Il paraît chez Actes Sud. Elle sera donc avec nous après le journal d'Antoine Mercier. Avant cela, deux littéraires, romanciers et essayistes, poètes ou scénaristes. Ils ont en commun le plaisir des mots. L'un pratique l'art du portrait, l'autre celui du croquis. Claude Arnaud publie Portrait craché, un trésor littéraire de Montaigne à Houellebecq chez Robert Laffont. Olivier Cadio sort le tome 2 de son histoire de la littérature récente chez POL. Dans leur livre se dessine en creux un portrait d'eux, en lecteur assidu, curieux mais pas révérencieux. Ils sont tous deux nos invités tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Olivier Cadio.
Bonjour.
Bonjour à vous Claude Arnaud.
Bonjour.
Le plus beau mot de la langue française pour vous, Olivier Cadio?
Je passe.
Je passe, ça peut être ça. Oui. Et pour vous Claude Arnaud?
Compliqué là.
Oui, c'est vraiment
compliqué.
Il y en a trop.
Il faut qu'on se mette
on
à deux,
on va se mettre à deux, on va pas. Continuer. Non, préférez dire celui
voilà,
que
vous détestez. On va attendre un petit peu et on va en trouver un dans le...
On va, en trouver
on va vous en trouver.
Bon, c'était pour identifier vos voix dès le début de l'émission, parce que vous êtes deux littéraires, deux hommes, deux passionnés de lecture et deux auteurs aujourd'hui. Vous savez qu'on attend le Médicis, des prix littéraires, il en pleut beaucoup cette semaine, des prix littéraires qui jusqu'ici ont consacré des romans très ancrés dans le réel, comme on dit. Les coulisses de l'Anschluss avec le Goncourt, Éric Vuillard, une figure du nazisme avec le Renaudot, Olivier Guèze, un fait divers, un triple meurtre avec le Fémina Philippe Jainada, sans oublier le double prix de Flore hier. Est-ce pour vous, Olivier Cadio, l'avènement de la non-littérature?
Au contraire, non. Dans mon petit livre, je dis que les choses que je préfère, finalement, c'est des... Je sais pas, je donne des exemples. Bon, bien sûr, l'extraordinaire récit La Colima, par exemple, on peut pas dire que c'est pas du réel, ça, ou je sais pas, ou Richard Hogarth, par exemple, le sociologue anglais, ou le journal de Samuel Pepys, je m'intéresse qu'au fait. Ce qui m'embête peut-être, c'est l'idée qu'on le dise, qu'on le montre, ce réel, bien sûr, mais qu'on prétende le toucher, m'ennuie.
Mais vous êtes quand même par moments assez sévère avec ce rattrapage de la littérature par le réel. Pendant 1000 ans, on s'est tapé l'irréel, maintenant c'est parti pour le réel. Voilà la nouvelle rumeur, ça commence, ouvrez les yeux, soyez réalistes, on est enfin dans la vraie vie.
Oui, c'est aussi parce que dans le tome 1, je me suis aussi servi d'une autre rumeur qui était « la littérature a disparu ». Je me sers de choses de mes propres idioties et de celles des autres pour commencer un livre. C'est-à-dire que je prends au pied de la lettre. Je dis, la littérature a disparu, très bien, alors faisons une enquête. Là, de la même manière, c'est vrai que j'entends beaucoup souvent, on entend tous beaucoup souvent des gens qui nous disent, ça y est, c'est maintenant, le réel commence aujourd'hui. Donc c'est assez rigolo pour un écrivain. Je fais ça de manière légère, hein. J'ai pas de thèse anti-réel où je serais pas là pour dire, ok, on va vite défendre l'imaginaire, comme si le réel allait... Vous voyez, je vous pose pas les deux. Je tourne autour de cette question. Et j'espère m'en évader assez vite pour parler de fuite d'eau, de but de chaumont, de sujets plus intéressants. C'est vrai que pour les auditeurs, c'est pas simple. Ça se présente comme un essai, c'est un peu, je trompe sur la marchandise, puisque il y a pas
non,
de thèse, il y a pas d'idée.
Ce sont des fragments, Olivier Cadio. Ce sont des fragments parodiques, un peu pamphlétaires aussi. Et c'est un anti-manuel du lecteur, de l'écrivain. Et un peu des deux à la fois d'ailleurs, mais qui nous parle de vous, on va l'évoquer. J'en viens juste à Claude Arnaud et peut-être vous, le regard que vous portez sur cette sélection cette semaine, sur les nombreux romans qui sont aussi parus dans cette rentrée littéraire. On voit des sujets très ancrés dans l'histoire, dans la réalité aussi aujourd'hui, mais quand même un art du portrait qui refait surface à travers les lignes, de la Seconde Guerre mondiale à la guerre d'Algérie, avec des auteurs comme aussi Alice Zeniter ou Kauter Adimi. Tous ont en commun dans cette rentrée littéraire d'incarner l'histoire, de révéler ces zones d'ombre à travers des trajectoires. Le portrait pose-t-il aussi à sa manière, pour vous, Claude Arnaud, la question du réel?
Ah oui, certainement, oui, comme le portrait, c'est supposé rendre compte du réel d'un personnage, surtout un personnage qui a eu un rôle historique, de même que les livres que vous évoquez, pour certains en tout cas, essaye de rendre compte du réel, du super réel qu'est l'histoire, et l'histoire très lourde du nazisme, évidemment, on peut pas faire plus réel de cette façon. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Du réel, il y en a dans la littérature n'est pas irréaliste, même la poésie de Mallarmé n'est pas irréaliste, le signe de Mallarmé n'est pas irréaliste, au contraire, il est extrêmement incarné, il est très très présent. Après, c'est une question de traitement, d'élaboration, de réélaboration de l'histoire, voilà, on peut dire que... Alors là, je dois parler personnellement, j'ai lu tellement tôt sur le nazisme et sur la déportation que je fais partie des gens saturés et qui regardent, mais un peu sur le quai de la gare, ce train continue de rouler, ce train de la mort continue de rouler. Voilà. Mais c'est personnel, j'ai pas mal donné de lecture au compteur, donc je peux comprendre très bien qu'on rentre dans le train avec enthousiasme.
Olivier Cadio, vous êtes rentré dans le train avec enthousiasme?
Moi aussi, quand on a lu le Hilberg, l'énorme... Beaucoup, j'ai aussi lu beaucoup de documents, enfin justement, et mais je suis prêt à continuer, bien sûr, avec voilà, et toujours, je veux dire, une banalité intéresse. J'ai pas lu ces livres qui sont sortis là, je vais les regarder, les lire, je pense. Je sais pas quoi dire d'autre que oui, je suis pas lassé particulièrement, mais je suis plutôt intrigué de la manière dont les gens peuvent
réapproprier ces sujets.
Ouais. Le train par quelle gare il passe, quoi.
Dans Portrait craché, Claude Arnaud, vous faites une sorte d'anthologie qui vous rapprocherait un peu de celle de Sioran, son anthologie du portrait de Saint-Simon à Tocqueville, de ses idoles et de ses obsessions. Là, on y retrouve les vôtres, vos maîtres en la matière. Vous évoquez le portrait sous toutes ses formes, de Montaigne à Barthes pour la Renaissance du genre, mise à bas par le nouveau roman, puis de Marguerite Duras, on passe à Houellebecq avec Camille Laurence pour Aujourd'hui. Portrait moraliste, historique, littéraire, on pense à Jean Genet par Jean-Paul Sartre, politique aussi, vous en citez plusieurs, Charles de Gaulle par André Malraux, Mao par Philippe Solers, Pétain par Céline, entre autres, des portraits d'animaux, de Buffon à l'Albatros de Baudelaire, et même de villes avec le New York de Morand. Ce portrait, peut-être nous expliquer tout de suite la différence que vous faites, vous, entre le portrait, l'autoportrait et l'autofiction.
Alors portrait, l'autoportrait, je pense que bon, il y a une différence évidemment. J'en fais des catégories différentes parce que c'est certain qu'on est, on n'écrit pas complètement sur soi comme sur les autres, mais néanmoins il n'y a pas une différence générique. Sauf que disons que l'autoportrait, dans le cas fondateur de Montaigne, il peut s'étendre sur 1000 pages ou dans le cas de Rousseau sur 600 pages. Et là, une propension à s'étendre et à prendre une place, je dirais, océanique, qui est sans doute la place que notre propre ego, que notre inconscient occupe dans notre propre histoire et dans notre parcours. La place des autres, oui, on peut dire aussi qu'il y a des hétéroportraits qui s'étendent et qui sont extrêmement, et qui finissent par prendre un volume énorme, comme le portrait admirable de Genet par Sartre, qui est devenu un monstre, qui a fini d'ailleurs presque par étouffer le pauvre Genet sous la puissance de son intelligence analytique. L'autofiction, évidemment, c'est une... Je n'en fais pas une catégorie ou un chapitre en soi, parce que d'abord elle traverse toute notre époque, elle est évidemment le genre peut-être le plus, en tout cas qui a été le plus repéré dans les 30 dernières années. C'est une extension de l'autoportrait, c'est aussi, on pourrait dire aussi, une sorte de modification génétique de la fiction, puisque le sujet, le narrateur, confondu quand même en général plus ou moins avec l'auteur, commence à prendre le pas sur ses personnages et réduit parfois à une portion sinon congrue, en tout cas pas toujours agréable, ses personnages. Donc on dirait l'autoportrait finit par s'exaucer et prendre un volume que, bon, peut-être il n'avait jamais eu jusque-là, excepté quand même chez Montaigne. On peut dire que Montaigne finalement prend plus de place que ses grands maîtres de Plutarque au latin et au grec.
Montaigne et ses essais, c'est le premier auquel vous rendez hommage dans vos portraits. Très craché, Claude Arnaud. Montaigne, quel apport fondamental à la littérature pour vous?
Oui, certainement. Oui, c'est un cas vraiment étrange et vraiment complètement singulier. Alors, on en reparle beaucoup aujourd'hui. C'est peut-être sa plus grande époque. Il faudrait regarder. Mais en Angleterre, il est un best-seller. Il y a quelque chose de curieux dans son destin. Mais dès le départ, c'est curieux. C'est un homme normal, un bourgeois avec des rentes qui se retire et qui commence à regarder sa bibliothèque, qui écrit un peu ce qu'il pense de ses lectures, un peu comme, je crois, nous le faisons Olivier Cadio et moi, mais alors sauf que lui, tout d'un coup, assez vite en cours de route, comprend que son point de vue, qui n'est pas un, son point de vue d'un savant, c'est pas un très grand lettré, c'est un humaniste, il a été élevé en latin par le choix de son père, donc il a quand même un accès direct à la grande culture, mais il n'est spécialiste de rien, il n'a absolument aucun titre, et tout d'un coup il comprend que cette infirmité, de cette façon, est le sujet par excellence, puisqu'il s'autorise à parler à partir d'une source qui n'est pas homologuée, officielle, sanctuarisée par l'académie, l'enseignement, l'université. Et cette découverte de ce soi fragile, incompétent, incomplet, changeant, ondoyant, est une chose magnifique, complètement surprenante. On ne parle pas de soi à l'époque, c'est pas du tout quelque chose d'établi, et ça sidère tout le monde. Et ça marche, c'est un succès dans toute l'Europe, ça stupéfait les gens. Le fait qu'il parlait de soi avec une telle naturelle, une telle audace, bon ben voilà, on a quand même quelque chose qui a fonder quelque chose qui est propre à la littérature française, on pourra peut-être en parler après, qui a souvent tendance à être assez plus autobiographique et analytique que peut-être le roman anglo-saxon. Là, on fait du très très gros, mais enfin, bon, avec un sens de la saga qui avait pu être fort, mais qui a souvent été contredit par une étude plus personnelle, type autoportrait, auto-analyse, et quelque chose de plus resserré quant à l'objet.
Olivier Cadio, la littérature a disparu, jamais de la vie, qu'est-ce qui nous a pris déjà se poser la question, quelle idiotie écrivez-vous à travers ces fragments libres de votre histoire de la littérature récente, vous proclamez la littérature vivante, c'est bien une histoire de la littérature aussi d'aujourd'hui que vous faites. Qui porte cette crainte de l'effondrement? Qui a proclamé avant vous la littérature morte? Et qui porte ce discours?
Des gens fantastiques et des gens terrifiants. Enfin, c'est-à-dire que le déclinisme a pu être, je sais pas, Adorno ou Benjamin ou des gens comme ça ont pu parler du déclin. Par exemple, le célèbre livre de Benjamin sur le raconteur qui dit qu'on peut plus narrer, etc. Bon. Et puis il y a aussi des déclinistes que je ne nommerai pas qui nous disent que tout est foutu, etc. Mais je proclame pas que la littérature est vivante. Parce que justement, je fais pas un livre à thèse où je dis c'est merveilleux. D'ailleurs, je dis ça, vous allez voir. Ça, il y a des rameaux verts partout et des petites fleurs qui sortent. Non, c'est pas un livre pour, c'est pas un pamphlet pour dire la littérature existe ou c'est pour la faire revivre. Mais c'est-à-dire qu'on entend ça, alors on se dit, je me suis dit, je vais me mettre au milieu du problème au lieu de le régler et je vais me comporter non pas comme un essayiste que je ne suis pas, ni un philosophe que je ne suis pas. Je n'invente pas de concept, il y a pas d'idées dans ce livre. Il y a des petites idées, toutes petites. Et simplement, je fais tourner ces contradictions. Je me mets les pieds dans le problème et finalement, ce que j'espère, mais encore une fois, c'est au lecteur de le dire. Il y a un peu de littérature qui se passe, qui a lieu, mais c'est presque involontaire. C'est-à-dire que pour s'occuper de la littérature, peut-être la solution, c'est de s'occuper de son problème, comme si j'étais médecin, si vous voulez, et puis progressivement, sans m'en rendre compte, mon patient est en bonne santé, mais moi je ne le sais pas. Si vous voulez, c'est une opération ratée, enfin bon, je ne sais pas comment je pourrais... Il y a une chose comme ça, je m'occupe du problème d'une manière bizarre. Mais je m'en occupe en tout cas comme écrivain, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'est un travail sur, uniquement fait de comparaison, d'approximation... toutes les choses dans ce livre se répondent, reviennent une deuxième fois, toujours sous un autre jour. Donc, j'étais moi-même surpris. Oui, c'est ça qui est assez beau. J'ai fait une vraie petite expérience. Je me suis dit à la fin, ah tiens, j'avais pas vu que ça faisait écho à ça. Donc, oui. Donc, c'est au fond un livre de littérature plus qu'un livre de pensée, encore une fois.
Et comme écrivain, vous diagnostiquez avec humour, quand même, quelques écueils, les deux principaux étant cet abus de réel, parfois, dans la littérature aujourd'hui, et le deuxième étant l'autofiction, une littérature pleine de tics dont vous vous moquez tendrement, une littérature confession, vous réglez gentiment vos comptes avec l'autofiction, genre médiatique par excellence. Quand vous direz « je », tout le monde s'écriera, mais c'est de nous dont vous parlez, merci à toi. Il y a un abus de jeu, vous trouvez quand même aujourd'hui dans la littérature ?
Non, j'ai pas d'avis, si vous voulez. Il faut pas prendre au sérieux ce que je raconte. je dis pas ça vraiment. Je me sers de ça à un moment donné pour dire aux gens pourquoi voulez-vous écrire à tout prix? Enfin, je me pose la question à moi-même, puisque le livre commence en disant nous lecteurs. Au fond, je ne parle pas tant que ça comme écrivain, je parle plutôt de ma part de lecteur. Parce que d'ailleurs, je dis à un autre endroit, on n'écrit pas, enfin, il faut arrêter de croire qu'on écrit, enfin, les gens n'écrivent absolument pas. Les écrivains, ils n'arrêtent pas de relire. Enfin, je pense que votre livre le dit de manière incroyable. Et très d'ailleurs ce livre je vais le piller entièrement hein, tout de suite. Il y a tout pour mon tome 3. Non mais c'est-à-dire que oui voilà, j'ai l'impression qu'on j'essaie de dire aux gens qui veulent absolument écrire que c'est peut-être pas qu'ils vont être déçus parce qu'on n'écrit pas, on passe son temps à se relire et surtout à trouver à redire. trouver à redire. Bah, Montaigne, si on regarde la construction du livre, et que je me souviens, j'avais travaillé pour une revue qu'on faisait à une époque, la revue de littérature générale, où on avait demandé à un spécialiste de Montaigne de nous expliquer un tout petit peu le système de montage. C'est prodigieux, la complexité. D'ailleurs, quand on va chez Montaigne, il y a un truc qui est bien, tout a été refait, bien sûr. Il y a un endroit où, soi-disant sa chambre, il y a un carrelage qui doit être d'époque. Mmh. Et le carrelage est incroyablement brisé et recollé. Et je me suis dit, s'il dormait là, alors il devait voir ses essais comme ça, comme un système de labyrinthe. Mmh. Hein,
il faudrait presque
un puzzle, exactement. Mosaïque, voilà. Mosaïque, j'ai failli mettre d'ailleurs une photo de ça. Enfin, je ne sais pas si c'était très attractif pour les lecteurs, une photo de carrelage.
Mais ça, c'est peut-être une très belle image de la topographie du moi profond. Ouais. Et Montaigne, là, quand même, le premier exhumé complètement en archéologue du moi, ou en découvreur du moi, peut-être au moins autant.
Après, il y a les paperolles de Proust, mais c'est un système.
Oui, comme, hein, un système d'araignée, d'étoile d'araignée. C'est ouais, ça, c'est certain. Ouais, ouais.
Avant d'aller piller le livre de Claude Arnaud, Olivier Cadio, quelle place vous faites à la littérature classique dans votre vie, de lecteur notamment?
Mais c'est-à-dire, j'ai appelé mon livre pour rire, parce que c'est un livre comique, histoire et littérature récente, tome 1 ou tome 2.
Bon, vous commencez.
Ça, c'est mon éditeur qui m'avait dit, ne dis jamais, parle pas de littérature, ça, à chaque fois tu perds des lecteurs. Donc je lui ai dit, bah, très bien, on va mettre ça en titre.
Donc elle n'est pas morte, mais elle se porte pas bien, quand même, visiblement.
Et j'ai oublié l'autre question, pardonnez-moi.
Sur les classiques.
Oui, bah, c'est-à-dire récent, ça peut, je parle de Montaigne à un moment aussi bien que de... c'est-à-dire je passe mon temps à tripoter les livres et à être comme des si vous voulez, c'est très simple, c'est très banal, chaque livre est un départ de feu, c'est-à-dire je trouve des, c'est pour ça que ce livre là de Claude Arnaud va pouvoir me servir, c'est-à-dire plonger dans Saint-Simon et vous avez une accroche, c'est un vilain mot, mais vous avez un départ de feu, plutôt un aiguillon. Et on passe son temps à collectionner. D'ailleurs, je pense qu'il y a le modèle de cabinet de curiosité. Je pense aussi. Et tout le problème de gens comme nous, c'est de savoir comment on transforme nos collections en choses vivantes. Hein. C'est un peu notre affaire.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord. C'est comme deux journaux de lecture, de journal de bord, d'écrivain-lecteur ou de lecteur-écrivain. C'est pareil, en l'occurrence, qui essaye évidemment de façon très différente, avec une topographie très différent, d'entrer dans le cœur de la littérature, en sachant que plus on entre dedans et plus c'est compliqué, et plus c'est difficile et plus c'est pluriel. Et je dirais que Dieu sait si ce sont deux livres très différents, mais il m'a semblé qu'il y avait un point commun dans les deux trajectoires de ces deux livres, c'est que d'une certaine façon, Olivier Cadeau le dit d'emblée, débarrassons-nous de l'ego, autofiction, voilà, on peut s'en passer, passons au-dessus de l'ego. Alors je fais exactement le contraire a priori, parce que c'est une moisson de 500 portraits qui sont tous supposés rendre compte quand même d'ego ou célèbres ou notoires, ou dans le cas de personnages romanesques qui ont frappé l'imagination des lecteurs pendant des générations. Et en même temps, je pense qu'au bout du voyage, il y a une dilution de cet ego, ça devient une espèce de mosaïque tellement complexe, tellement contradictoire. C'est les grands portraits de Proust, de Charlus ou d'Albertine, où on ne sait plus qui est Charlus, on ne sait absolument pas qui est Albertine. On a comme un système en miettes, on est tellement loin dans l'analyse, dans la dissection, dans l'étude, qu'il nous reste plus qu'une espèce de nuage de fumée, et c'est sans doute ce qu'on peut dire de plus juste sur soi-même et sur tout personnage dont on essaye de faire le portrait.
Mais d'ailleurs, vous l'écrivez, Claude Arnaud, faire une anthologie du portrait écrit, c'est raconter l'émergence du moi, du brouillard initial, des cavernes à l'hyper-réalisme contemporain, de la sortie de la tribu à l'avènement de l'individualisme de masse, en passant par les efforts d'élucidation du christianisme, des moralistes et de la psychanalyse. En commun, tous ces portraits, autoportraits, ont un même examen de conscience, c'est-à-dire qu'au-delà du jeu, du petit ego de chaque auteur, c'est aussi l'examen de conscience d'une société qu'on peut faire à travers beaucoup de ces portraits, non ? C'est ça la particularité, cette forme d'introspection qu'on retrouve dans ce genre littéraire que l'on peut retrouver.
Oui, parce que le moi est une construction sociale aussi, n'est pas qu'une construction individuelle. Évidemment, plus on va vers des culture individualiste, plus l'illusion de l'individualité est forte. Et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, cet hyper-individualisme, cet hyper-narcissisme, c'est une production de masse avec aussi ses effets de série parfois redoutables, parfois plombants. Donc ce que j'essaye de tenir là, c'est une ligne... ma curiosité va quand même vers les personnalités singulières, les écrivains singuliers, vers quelque chose qui d'une singularité quand même éprouvée, vraie, si on peut dire, on peut évidemment qualifier ainsi une personnalité. J'essaie de tendre vers ça. Voilà, ce que pour moi, la littérature, c'est quand même l'expérience et l'expression de la singularité. Ce n'est pas que ça, hein. Je suis bien conscient du fait qu'il y a des très romans très puissants, et peut-être les grands romans les plus puissants, au contraire, sont l'expérience de la banalité. Madame Bovary, peut-être le... À mes yeux, c'est plat de le dire, mais enfin, peut-être le plus grand roman de Flaubert, il n'en a pas fait tant que ça. C'est l'expérience de certaines banalités. Et alors, lui qui cherchait tellement la singularité, lui qui s'était cassé les dents sur la tentation de Saint-Antoine, trois versions toutes ratées aux yeux de son entourage, s'épanouit dans un roman de la banalité. Néanmoins, peut-être il y a quelque chose qui me touche plus dans la singularité, dans le pas de côté, voilà, c'est peut-être ça que je cherche en littérature.
Expérience d'autant plus importante que, et vous l'exprimiez déjà dans un essai, pour le coup, Claude Arnaud, que dit Jean-Nous qui dit Jean-Nous, pardon, cet exercice d'introspection est d'abord un effort de construction de soi et du nous, un questionnement sur l'identité qui ne se fait plus par d'autres biais, par d'autres institutions, comme c'était peut-être le cas avant, par des grandes fabriques identitaires qu'étaient la religion, la patrie, le milieu social dans lequel nous évoluions, la littérature, quelque part, prend cette place-là, celle de nous aider à nous comprendre et à nous connaître.
C'est pour ça qu'elle n'est pas morte du tout, à mes yeux, ça. Alors là, je pense que j'ai aucun doute là-dessus. Elle est même plus active que jamais. L'évaluer, c'est impossible, comme tout contemporain, on n'a pas la bonne distance, on n'a pas les bonnes lunettes, mais elle est plus vivante que jamais. Je veux dire, même, c'est un refuge impressionnant. Il y a 30 ans, je me suis dit, tiens, ça sent pas bon, ça décline, on voyait la chute du livre comme objet central de référence et de construction de soi. Ce que je vois ces 30 ans plus tard, c'est à quel point les gens passent par l'écriture. Je m'occupe d'un atelier d'écriture en ce moment, je vois beaucoup de gens venir pour essayer de comprendre quelque chose d'eux-mêmes, de leur entourage, de leur vie, à travers l'écriture. Et non plus, effectivement, comme je vous disais, à travers soit l'idéologie, soit la religion, soit les grandes constructions sociales, identitaires, patriotiques. Donc c'est impressionnant. Alors c'est peut-être plus fort dans ce pays qui a un rapport à la littérature quand même très, très ancien et très constitutif d'un point de vue identitaire, mais c'est très frappant. Alors est-ce que ça donne une immense littérature ? On verra, mais je pense qu'il faut être patient. Mais de toute façon, quand vous voyez affluer tant de propositions littéraires, certaines très réalistes, on les a évoquées en début de l'émission, certaines très, je dirais, d'ordre poético-analytique, singulière, je pense que le livre d'Olivier Cadio pourrait s'y inscrire. Quand vous voyez tant de propositions différentes, c'est quand même un signe de vitalité, de grande vitalité.
Les portraits nous renvoient indirectement l'image d'un être qu'on ne croise d'ordinaire jamais, soi-même, écrivez-vous Claude Arnaud, puisse cette anthologie être pour chacun un révélateur comme elle l'a été pour moi. Olivier Cadio, vous l'évoquez aussi, pour vous cette écriture, ce manuel à l'usage du futur écrivain ou poète est aussi un portrait en creux de vous, mais de vous comme lecteur. Est-ce que nos vies sont toutes des décalcomanies de nos lectures? Est-ce que vous avez, vous aussi, ce sentiment-là comme lecteur?
Oui, oui, mais je ne sais pas à qui est destiné ce manuel exactement, c'est embêtant, hein. C'est pas très vendeur.
À vous-même peut-être, ouais. Non?
Non, parce que finalement, à moi-même, oui, encore une fois, je fais tourner les positions, c'est-à-dire que je m'adresse à moi comme lecteur, mais je m'adresse aussi aux futurs écrivains comme anciens lecteurs, et je fais tourner les pronoms personnels, les je, le tu, le il, les ou, les... Donc il y a une sorte de ballet comme ça. Je crois que c'est un livre assez néoclassique, si on réfléchit bien, parce que à l'arrière, la quatrième de couverture promet quelque chose de très précis, 5 techniques pour réaliser un livre, réalisé en italique, heureusement. C'est pour dire aux gens, voyez comment vous allez réaliser comme lecteur, mais aussi comme écrivain. Réaliser, ça peut vouloir dire comment on réaliserait un film. Mais aussi, tourner vos livres du côté du réel. Les tordre, les réaliser, comme on pourrait dire, les imaginiser, non? Je ne sais pas si ça marche dans l'autre sens. Donc, ce que je propose, c'est finalement un truc très psychologique, très comme Gustave Lanson, non? J'ai fait un chapitre qui s'appelle Pour Sainte-Beuve. Finalement, je reviens en arrière et j'ai dit, finalement, un livre réussi, enfin, pas celui-là, ce que ça promet, c'est l'accumulation des humeurs. Enfin, c'est-à-dire, finalement, la dépressivité, le doute, le repentir, ou l'exaltation, et donc les 5 techniques, ces 5 humeurs, qui finalement vont construire, 5 humeurs qui vont construire progressivement, en creux, alors c'est une idée d'une banalité folle, hein, c'est-à-dire cette activité bizarre qui consiste à travailler inlassablement sur un objet vide, et qui progressivement va se remplir comme une contre-forme, comme, vous savez, les embauchoirs dans les chaussures, quoi. C'est-à-dire que c'est un objet qui va se former à force de travail, comme une sculpture. Je sais pas comment décrire ça. Je passe mon temps dans le livre à essayer de décrire cette opération bizarre. Ça veut pas dire travailler sur du vide de manière tragique. pour autant. Ça veut dire travailler de manière assez concrète sur une chose qui se dérobe comme si on sciait la branche sur laquelle on était. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est un travail qui consiste à détruire ce qu'on fait en avançant. Et progressivement, cet exercice finit par magie, par produire, alors, j'appelle ça du réel, pour le coup, c'est-à-dire un objet qui a une matière. Et ça n'a rien à voir avec des problèmes de style, je crois, des problèmes d'écriture pure. Je crois que c'est des activités de pensée, des activités émotives qui accumulées. Voilà. Alors, on pourrait dire ça de n'importe quel métier, hein. Je veux dire, là, un architecte a les mêmes problèmes. Du coup, ça ramène la littérature aussi là où elle est. C'est-à-dire une activité humaine pas si extraordinaire que ça.
La seule chose, et on le sent très bien dans votre livre, c'est que c'est un métier qui se fait seul et sans public. On peut dire qu'un ébéniste, quand même, à un moment ou à un autre, va montrer sa commode, sa console, et va avoir quand même, nous avons pas par un éditeur, quand nous avons un, il y a une sorte de doute, je pense qu'on le sent très bien dans votre livre, une sorte de doute générique au moment du processus de l'écriture, où tout d'un coup ça se déréalise à une vitesse prodigieuse. Et le fait d'avoir pris la réalité, y compris même la réalité de la déportation pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'empêche pas ce phénomène de déréalisation intégrale à plusieurs moments décisifs de l'élaboration d'un livre. Et ça, on le sent tout le temps dans le livre d'Olivier Cadio, c'est ça. Je pense que là, en tant qu'écrivain, on peut vraiment, on ne peut qu'approuver ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est la difficulté quand même quand je vois arriver dans ces ateliers d'écriture des gens qui veulent s'écrire. Je les préviens quand même que c'est parfois encore le remède est parfois pire que le mal, parce que on se déloque, on se déstructure, on se débine parfois aussi. C'est vraiment un processus de destruction créatrice.
Oui, mais c'est très à partir profond. Ce livre est juste là pour dire, mais servez-vous de ça au lieu d'en souffrir.
Un
physicien ou un mathématicien, il est au courant de ça, que c'est dur. Mais nous, on n'en a pas. Si on dit ça tout de suite, on dit ah le pauvre, c'est la panne de l'écrivain. Pas du tout. Ça fait partie de la recherche. L'idée de recherche en littérature fait tout de suite laisserait supposer un truc assez ennuyeux et assez sérieux. Un mathématicien, encore une fois, on lui
tout
demande.
Tout le monde cherche, voilà.
Et que c'est à la fois joyeux et atroce, mais. Ouais.
Enfin. Le fait, justement, Claude Arnaud, que vous contextualisiez tous les textes que vous mettez en avant dans cette anthologie, que vous les interprétez, mais de manière très subjective et personnelle, montre aussi qu'il faut, d'une certaine manière, non pas juste enfermer, mettre en vitrine, conserver, préserver une certaine fonction de la littérature, mais qu'au contraire, il faut la manipuler, la triturer, comme le recommande à l'instant Olivier Cadio, pour la continuer à la faire vivre.
C'est certainement. Alors oui, on peut dire qu'il y a un côté cabinet de curiosité ou cabinet des merveilles, comme à Prague. Mais c'est certainement pas un musée, et ça, je serais désespéré si ça contribuait à muséifier un seul des auteurs que je cite. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi. Mais non, un objet vivant, un objet de connaissance et de connaissance de soi. J'ai conçu vraiment ça comme je tends au lecteur un miroir, une énorme galerie des glaces avec donc 500 portraits, et je pense qu'il y en aura un de ces 500 qui va lui dire quelque chose, dans lequel il y aura même des formes de projection ou de rétroprojection. C'est ça qui m'intéresse, et pas du tout le musée ou l'académie. Non, c'est ça. C'est une interaction. Je le dis, je pense à des moments clés du livre. Je ne comprenais vraiment pas grand chose moi-même à l'origine. Et c'est vraiment par la littérature que j'ai cherché l'observation autour de moi et par la lecture que j'ai cherché à comprendre. Et c'est à force de lecture et d'observation que j'ai fini par me sortir d'un brouillard quand même qui était menaçant, qui était redoutable. Donc ça m'a aidé. J'espère que ce livre aidera quelques personnes, ça me ferait très plaisir.
Il va aider amplement, en tout cas Olivier Cadio, c'est déjà noté et prescrit, c'est important. Histoire de la littérature, tome 2, Olivier Cadio, et vous rappelez en ouverture qu'on n'a pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour comprendre le tome 2. Donc laissez-vous porter par cette lecture, c'est chez POL, Claude Arnaud, Portrait craché, un trésor littéraire de Montaigne à Houellebecq. Votre anthologie vient de paraître chez Robert Laffont. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.